Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 26 juillet 2021 et on vient de terminer une semaine de folie. Alors franchement, vous m'auriez dit ça il y a une semaine en arrière, comme quoi on terminerait au plus haut de tous les temps avec une ambiance pareille de délirium tremor dans l'esprit des investisseurs. Je n'y aurais pas cru une seconde. Il est clair que quand on se souvient où on était dans le même état mardi dernier, eh bien, on peut vraiment se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bon, évidemment, on a déjà beaucoup parlé de ça cette semaine. Renversement de tendance majeur, buy the dip, hein, on a racheté sur faiblesse après 2,8% de baisse sur les indices. Et puis alors on est reparti comme en 40, comme si de rien n'était. Tout va bien, la Banque Centrale Européenne est avec nous, on est au plus haut de tous les temps aux États-Unis. Le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones ont réussi à faire la triplette magique vendredi soir, clôturer à des plus hauts records. Le Dow Jones en plus passe la barre des 35 000 points. Alors on se rapproche gentiment de ce fameux bouquin américain qui s'appelait Dow 40 000, qui a été écrit dans les années 2000, où on pariait sur un Dow Jones à 40 000 points, chose qu'on n'aurait pas cru 6 mois après. Mais aujourd'hui, on se pose la question, on y est presque, hein, à la vitesse où ça monte, de toute façon, ça devrait être réglé assez rapidement. Donc tout a l'air de plus ou moins bien se passer. Mais par contre, alors si la semaine dernière, on a vu systématiquement le vert à moitié plein, est-ce qu'on sera capable de le refaire encore cette semaine? C'est la grande question du moment, puisque cette semaine, alors, il va y avoir du lourd, pour ne pas dire du très très lourd, puisqu'on aura quand même droit à une avalanche de publications cette semaine, et ce sera vraiment la clé et le juge de paix de toute cette semaine. Mais en plus des publications, il y aura aussi la Fed. Oui, comme si ça ne suffisait pas, puisque déjà, entre mardi et jeudi, on aura droit aux 5 GAFAM qui vont publier, à commencer mardi par Apple, Microsoft et Google, mercredi Facebook et jeudi Amazon. Mais comme ça ne suffit pas pour nous amuser et occuper nos journées, eh bien on nous a collé en plus le meeting de la Fed qui va commencer mardi matin aux États-Unis et qui finira mercredi soir. Donc on aura des nouvelles mercredi soir. Alors il n'y a rien de neuf qui est attendu au niveau du FOMC meeting, si ce n'est qu'on va avoir un peu le feedback de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils pourraient éventuellement faire. On sait qu'au niveau de l'agenda de la Fed, ils vont nous coller cette histoire de tapering dedans, et parce que pas mal de membres de la Fed veulent aborder le sujet. Donc le tapering, c'est ce rachat obligataire que la Fed met en place tous les mois à hauteur de 120 milliards de dollars pour réinjecter de la liquidité dans l'économie et dans les marchés. Et donc on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement, eh bien, ce tapering pourrait à un moment donné se ralentir, diminuer, voire disparaître, puisque l'économie va mieux et qu'à un moment donné, il faut quand même la laisser marcher toute seule. On peut pas la garder sous oxygène ad vitam aeternam. Et donc, c'est la grande question, puisque c'est le cheminement logique. D'abord, vous enlevez le tapering, et ensuite, vous réduisez vos achats obligataires, et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Il restera plus qu'à monter les taux. C'est encore de la musique d'avenir, mais c'est clair que c'est comme ça que les investisseurs vont le regarder, et c'est pour ça qu'on va être extrêmement concentré sur les paroles de Monsieur Powell et de son communiqué de presse qui sortira mercredi soir. Donc voilà, je vous ai un peu dépeint le scénario de ce qui nous attend cette semaine, hein. Donc beaucoup de publications, énormément de publications. Donc, évidemment, je vous ai cité les GAFAM, mais il n'y a pas que, hein, il y aura plein de monde. On va même commencer ce matin avec LVMH en Europe, en France. Donc gros morceau aussi pour l'Europe. On aura encore Logitech qui sortira pour nous les Suisses, mais ce soir aux États-Unis. Et puis Tesla ce soir qui publiera et qui va ouvrir les feux pour cette semaine fabuleuse de résultats. Et de nouveau, comme je vous le disais en début de podcast, est-ce qu'on sera capable cette fois de continuer à voir le verre à moitié plein, puisque faut quand même signaler que sur les gros noms qui vont sortir cette semaine, la performance pré-publication est exceptionnelle, puisque rien que sur le mois de juillet, vous avez une Apple qui a fait quasiment 10%, une Microsoft qui a fait 10%, une Google qui a fait 10%, une Facebook qui est dans le même ordre d'idée. Il y a la seule qui se traîne un petit peu globalement, c'est Amazon qui n'a pris que 6% sur le mois de juillet. Donc voilà, on est un petit peu dans un monde où tout a très très bien performé et on pourrait s'attendre éventuellement peut-être à voir quelques prises de bénéfices lors des publications qui seront bien évidemment au-dessus des attentes, comme elles le sont à 90% depuis le début de cette saison des résultats. On va aussi beaucoup parler cette semaine de la Chine. La Chine, parce que ça commence assez mal la semaine, ça continue avec beaucoup de tensions au niveau économico-politico entre les Américains et les Chinois. On voit aussi une démission majeure de la part des investisseurs dans tout ce qui est Internet chinois. Donc tout le secteur se fait massacrer en Chine et à Hong Kong. Donc vraiment, on voit que les gros players sur la Chine ne veulent plus être dedans. Donc il y a une grosse sortie de ce côté-là. On va aussi observer attentivement tout ce qui va venir au fur et à mesure de la semaine, parce qu'il y aura quand même beaucoup de chiffres économiques en plus de tout ça. Donc je crois qu'on va avoir une fin de mois de juillet qui va être assez spectaculaire et qui, pour être franc, pourrait partir grosso modo dans tous les sens. Hein, ça risque quand même d'être une question surtout d'interprétation, parce qu'on sait que les chiffres sont bons, que l'inflation ne sera que transitoire et que la Fed sera toujours notre meilleur ami. Mais il y a quand même deux, trois choses qui risquent de coincer un petit peu au fur et à mesure de la semaine. Donc, vu le niveau de la volatilité, vu notre confiance par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière et là où on a terminé, il va falloir serrer les fesses les prochains jours. On parle aussi beaucoup du Bitcoin et des crypto-monnaies ce matin, puisque ce week-end, il y a un rapport secret qui n'est pas officiel, que personne n'a vu, mais on a entendu dire qu'il se pourrait, dans les milieux autorisés, qu'on ne saurait pas, mais on nous l'annoncera bientôt, comme quoi Amazon pourrait accepter les crypto-monnaies, enfin le Bitcoin en tout cas, et d'ici la fin de l'année. Donc vous imaginez ce que ça représente pour le Bitcoin. Eh ben, ça représente grosso modo une hausse de quasiment 12% depuis hier. Le Bitcoin frise de nouveau les 39 000 $. Et puis techniquement, alors les experts sont tous arrivés sur le marché, hein, on va beaucoup plus haut. En tout cas, 46 000 $ sur le Bitcoin, c'est évident. 46 200 d'après le target que j'ai vu ce matin. Donc les gens sont de nouveau euphoriques sur les crypto-monnaies. Et c'est quelque chose dont on risque de parler un petit peu cette semaine, puisqu'il y a un retour, un coup de projecteur à nouveau sur le secteur qui était un petit peu délaissé ces derniers temps. Au niveau de l'idée du jour aujourd'hui, ça vient même pas de ma part. En fait, j'ai un auditeur qui m'a proposé de suggérer un titre comme étant l'idée du jour. Et ce titre, c'est Meyer Burger, qui finalement nous propose d'acheter le titre sur les niveaux des 40 centimes et avec un target dans la zone des 60. Alors, c'est donc, comme je le dis, l'idée ne vient pas de moi, mais je dois dire que elle me séduit, puisque effectivement, quand on regarde le canal haussier dans lequel est installé Meyer Burger, eh bien vous avez quand même un joli support dans la zone où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près autour des là on est à 47 cents de francs suisses, hein. On a un support qui passe par les 43 cents. Les 43 centimes en bas, donc plutôt bien achalandé, avec un target en direction des 60, voire un poil en dessus, selon la remontée. Donc techniquement, c'est relativement bien disposé. Le symbole en Suisse, c'est MBTN, et ce serait assez intéressant de se positionner là-dessus pour jouer ces 10-15 centimes de hausse, ce qui représente quand même un joli mouvement en termes de pourcentage. Au niveau du stop-loss, il faudra surveiller la moyenne mobile des 200 jours, mais ça paraît quand même hautement improbable qu'on y retourne, puisque depuis le début du mois de septembre, on n'a plus jamais retourné à ces niveaux-là. Donc plutôt confortable comme trade, et c'est vrai qu'au niveau canal haussier, au niveau technique, ça se présente super bien. Donc voilà, c'est pas de ma part, c'est pas mon idée, mais je cautionne et je trouve assez sympa comme thématique à jouer, surtout que c'est toujours assez rigolo de jouer des titres qui ne valent pas 47 $ ou 470 $. Alors, en l'occurrence, c'est du franc suisse, mais ça vaut 47 centimes de franc suisse. Donc Meyer Burger pour la trade d'aujourd'hui. La question du jour aujourd'hui, je vous la lis, c'est assez long, mais je crois que ça vaut la peine d'en parler. On pourrait aussi en parler pendant des heures, hein, mais je vais essayer de faire ça court. Je constate que toutes les banques retail offrent plus ou moins le même service de gestion de fortune dite active pour les portefeuilles de taille moyenne. J'ai l'impression qu'il s'agit surtout de refiler des fonds maison gérés activement, mais qui ne font rien de très différent que suivre des valeurs sûres dans une logique buy and hold. La question, existe-t-il des fonds facilement accessibles sans mise d'entrée qui proposent un service de gestion type day trading ou trend following? Et si cela n'existe pas vraiment sur le marché, comment peut-on l'expliquer? Est-ce que cela n'offrirait pas le rendement suffisant? Alors, écoutez, effectivement, je ne veux pas casser du sucre sur les méthodes de gestion des banques qu'on appelle la gestion active, mais disons que c'est vrai que si vous essayez de gérer des multiples portefeuilles avec du trading, c'est très compliqué. Maintenant, les fonds qui font ce genre de choses, il n'y en a pas ou très très peu. Et c'est clair qu'en général, ceux qui proposent ce type de service très agressif ou day trading ou trend following ou 10 000 stratégies différentes, mais qu'on va dire un petit peu plus trading, eh bien, c'est généralement des fonds, des hedge funds, et qui sont pas forcément faciles d'accès parce qu'ils demandent des gros montants pour entrer, qui vous laissent pas sortir comme vous voulez. Enfin voilà, vous connaissez un peu le principe des hedge funds, c'est jamais tellement facile. Et puis, eh bien, en fait, le fait que pourquoi ça n'existe pas de manière plus ouverte, eh bien, c'est simplement que c'est toujours très très difficile sur le long terme d'offrir des performances relativement stables dans ce type de méthodologie. Les gestions type day trading entre guillemets, pour ce qu'on sait sur l'expérience, c'est que vous avez des périodes où vous cartonnez et des périodes où vous faites plus rien. Et donc la problématique, c'est que quand vous êtes un client investi dans ce type de fonds, eh bien vous exigez une performance quand même régulière. Mais c'est vrai que ça, c'est difficile à proposer de ce côté-là. Deuxième chose, quand vous n'êtes pas une banque et que vous décidez de lancer un fonds trading, et typiquement si moi demain je voulais lancer un fonds day trading pour proposer à mes clients de rentrer dedans, ou je gérerais moi-même avec une version ultra court-termiste, la problématique, c'est toujours les assets de base pour démarrer et la structure que ça demande aujourd'hui. C'est très coûteux, c'est très compliqué à ouvrir un fonds en Suisse aujourd'hui. Les réglementations sont extrêmement strictes et il faudrait déjà avoir suffisamment d'assets pour pouvoir en vivre et pour pouvoir démarrer avec une base assez solide. Et faites-moi confiance que quand vous faites ce genre de choses, eh bien, vous avez souvent des clients qui vous disent « Oui, moi, j'aimerais bien faire ça avec toi. » Et puis, quand il faut commencer à investir, eh bien, il n'y a plus personne. Et c'est toujours très, très difficile quand vous partez sur une base privée et que vous n'avez pas l'appui d'une banque derrière. Et en même temps, les banques elles-mêmes, comme vous le disiez au début de votre question, eh bien, elles n'ont pas forcément cette capacité et cette envie non plus de créer des fonds ultra dynamiques qui sont par essence relativement risqués et relativement peu stables en termes de performance. Donc, ceci expliquant peut-être cela. Donc, c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue, parce que d'un côté, vous pourriez faire ça avec des clients en étant indépendant, mais le problème, c'est qu'il faut avoir suffisamment de fonds pour pouvoir démarrer. Et quand on parle de fonds, je pense que démarrer un fonds comme ça avec moins de 30 millions d'assets, c'est complètement ridicule pour la personne qui va gérer le fonds en tous les cas. Et puis, bah, de l'autre côté, vous avez des banques qui, eux, auraient les moyens de le faire, mais ne sont pas vraiment hyper motivés pour permettre finalement à certains de leurs employés ou à leurs traders de gérer ce genre de choses. Et de l'autre côté, ça existe quelque part, mais c'est des hedge funds qui, eux, ont des tailles d'entrée qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus grosses et beaucoup plus compliquées à trouver, puis qui sont aussi construits sur une base de plus top secret, entre guillemets, très mystérieuse. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Pour ce qui est de ma part, je vous souhaite un très bon début de semaine. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote, à ces podcasts sur Spotify. Et puis nous, on se retrouve de toute façon demain matin pour un nouveau podcast. Passez une très, très belle journée.